Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 18 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la fin de la 11e épidémie d'Ebola qui a fait au moins 55 morts dans la province de l'Équateur. Le gouvernement éthiopien dit venir à bout des forces tigréennes qui, elles, disent infliger de lourdes pertes à l'armée fédérale. L'Arabie Saoudite et l'Irak ont rouvert leurs frontières qui étaient fermées depuis 30 ans. Le président Donald Trump a limogé le chef de l'Agence de la sécurité des élections qui a défendu la probité de la présidentielle du 3 novembre. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la fin de la 11e épidémie d'Ebola qui a fait au moins 55 morts selon l'OMS. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
L'annonce a été faite par le ministre congolais de la Santé, Eteni Lungondo, devant les médias. Elle intervient au terme d'un délai sanitaire de 42 jours après que le dernier patient guéri a été définitivement testé négatif. C'est le 1er juin que cette épidémie a été déclarée dans la province de l'Équateur. Elle a concerné quelques 130 personnes, dont 119 cas confirmés et 11 probables, et a fait 55 morts. Une épidémie finalement moins grave que la 10e qui avait fait 2200 morts entre août 2018 et juin 2020. Pour contenir l'épidémie, plus de 40 000 personnes ont été protégées au vaccin du groupe américain Merck. La fin de la 11e épidémie ne signifie cependant pas que l'on en a fini avec la maladie. Selon le ministre de la Santé, le risque élevé de résurgence reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de vigilance soit renforcé.
La présidence du Ghana a démenti avoir interféré dans le travail de l'ex-procureur anticorruption. Lundi, le procureur Martin Amidou a démissionné en affirmant qu'il n'était plus en mesure d'exercer en toute indépendance. Dans sa lettre de démission, il accuse le président Nana Akufo-Addo d'avoir tenté de lui faire enterrer un rapport concernant une société offshore créée par le gouvernement pour gérer les redevances minières du pays. Le gouvernement éthiopien et les autorités régionales du Tigré ont revendiqué ce mercredi, chacun de leur côté, des victoires militaires dans le conflit qui les oppose depuis 2 semaines. Le point avec Abdourahmane Dia.
La réalité sur le terrain est difficile à évaluer en raison d'un blackout sur les communications dans la région et des restrictions imposées au déplacement des journalistes. Mais le chef de l'armée éthiopienne a indiqué ce mercredi que ses soldats gagnent sur tous les fronts. Le plan du TPLF de pousser l'Éthiopie vers une guerre civile et de la désintégrer a échoué et le TPLF est actuellement aux abois car il est cerné, a-t-il ajouté. Mardi soir, le gouvernement éthiopien a affirmé contrôler plusieurs villes de l'est du Tigré, notamment Meoni, au sud de Mekele, la capitale régionale. De leur côté, les forces tigréennes ont revendiqué des victoires militaires sans donner de précision. « Nous infligeons de lourdes défaites sur tous les fronts à la force qui est venue nous attaquer », a dit le président régional du Tigré, Debretsion Gebremichael, dans un communiqué. Le 4 novembre, le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut de cette région dissidente dans le nord de l'Éthiopie après des mois de tensions avec les autorités régionales du Front de libération des peuples du Tigré.
La police en Ouganda a fait usage de gaz lacrymogène et balles en caoutchouc ce mercredi contre des manifestants en colère après la nouvelle arrestation de l'opposant Bobi Wine, principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, alors qu'il faisait campagne. Selon la police, le chanteur devenu député a été arrêté pour avoir violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses rassemblements. Arrestation ce mercredi au Malawi du prédicateur millionnaire Shepherd Bushiri, impliqué dans une affaire de blanchiment en Afrique du Sud. Prophète autoproclamé d'une église évangéliste fondée à Pretoria, il avait fui dans son pays d'origine la semaine dernière, contrevenant aux conditions de libération sous caution imposées par un tribunal sud-africain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président élu américain Joe Biden entendent renforcer les relations entre les États-Unis et le continent africain, indiqué ce mercredi la présidence à Johannesburg à l'issue d'un échange téléphonique entre les deux hommes mardi soir. Monsieur Ramaphosa, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, a dit espérer un partenariat solide entre les États-Unis et l'Afrique pour promouvoir la paix et la stabilité dans les relations internationales et faire avancer le multilatéralisme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux semaines après la présidentielle du 3 novembre, le président Donald Trump a limogé le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Il avait défendu la probité du scrutin contesté par M. Trump. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes massives, a écrit Donald Trump sur Twitter, ajoutant « C'est pourquoi Chris Krebs a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. Ce fut un honneur », a réagi celui qui dirigeait l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections dans un tweet assorti du hashtag « Protéger 2020 ». L'agence de Chris Krebs a déclaré dans un communiqué signé par d'autres organismes qu'il n'y a aucune preuve d'un système de vote ayant affecté, perdu ou changé des bulletins ou ayant été piraté. Chris Krebs a ajouté que la présidentielle a été, je cite, « la plus sûre de l'histoire des États-Unis », rejetant ainsi les accusations de fraude électorale soulevées par Donald Trump. L'annonce de Trump a été dénoncée par les démocrates qui appellent à accélérer le processus de transition vers la présidence de Joe Biden. En l'absence d'éléments probants accréditant l'hypothèse de fraude électorale massive, la plupart des recours de Trump ont été rejetés par les tribunaux.
L'Arabie saoudite et l'Irak ont rouvert leurs frontières qui étaient fermées depuis 30 ans. Riyad ne veut pas laisser le champ libre à son grand ennemi iranien qui est proche des autorités de Bagdad. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
La frontière est fermée depuis l'invasion du Koweït par Saddam Hussein dans les années 90. Depuis ce matin, le principal point d'accès à Harar est de nouveau accessible. Des files de camions attendent des deux côtés. Harar n'ouvrait que pour laisser passer les pèlerins irakiens en route vers la Mecque au moment du Hajj. L'objectif est de laisser passer les marchandises et les personnes et pour créer une autre porte d'entrée aux importations, dont une grande partie arrive en Irak par la frontière avec l'Iran, son deuxième fournisseur commercial. Aujourd'hui, Riyad entend donc revenir en force sur le marché irakien, inondé de produits iraniens et turcs. Les deux pays tentent également de rouvrir le second point de passage, Al-Jamaïma, dans le sud de l'Irak. Le premier ministre irakien Mustafa Al-Kazimi est un ami personnel du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Ce rapprochement a provoqué la colère des factions armées pro-iraniennes qui accusent Riyad de vouloir coloniser l'Irak sous couvert d'investissements.
Le chef de la diplomatie Bahreïni Abdelatif Al-Zayani a entamé la première visite officielle en Israël d'un ministre de cette monarchie du Golfe. Monsieur Zayani et une délégation de Bahreïn qui a normalisé ses relations avec Israël en septembre ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi à Tel Aviv. Il a rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahou et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui s'est rendu à Jérusalem après ses déplacements en France, en Turquie et en Géorgie. Les talibans ont salué ce mercredi l'annonce des États-Unis de réduire en janvier le nombre de troupes en Irak et en Afghanistan. Le président américain sortant, Donald Trump, concrétise sa promesse de mettre un terme aux guerres sans fin. 2000 militaires seront retirés d'Afghanistan le 15 janvier et 500 d'Irak pour ne laisser que 2500 soldats dans chaque pays, a annoncé hier le nouveau ministre de la Défense par intérim, Christopher Miller. L'Iran a commencé à mettre en service les centrifugeuses avancées déplacées dans une partie souterraine de l'usine de Natanz, principal site d'enrichissement d'uranium du pays, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans un rapport la semaine dernière, l'AIEA fait état du transfert après l'explosion survenue sur une autre installation du site, qualifiée de sabotage par Téhéran. 48 candidats vaccins anti-Covid-19 sont actuellement en essai clinique sur l'humain et 11 sont entrés dans la phase 3, la dernière avant l'homologation des autorités selon l'OMS. L'Union européenne a appelé ses membres à reconnaître les résultats des tests de vaccins effectués dans d'autres pays européens pour mieux endiguer la deuxième vague de la pandémie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Le comité de politique monétaire de la Banque centrale de Zambie s'est montré pessimiste ce mercredi quant à la dégringolade du kwacha face au dollar américain. La monnaie locale zambienne s'est dépréciée de 0,15% à 20,94% et pourrait terminer l'année à près de 26 contre le biais vert. La Zambie est considérée comme le premier pays africain à être en défaut de paiement. Le prix du Bitcoin a bondi mardi pour la deuxième séance consécutive, gagnant 1 500 $ en moins de 48 heures. Ce mercredi matin, le Bitcoin coûtait 18 000 $, soit environ 10 millions de francs CFA. Sur les dernières 24 heures, le Bitcoin a gagné plus de 6%, entraînant dans son sillage tout le marché des cryptos qui se rapproche d'une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars. La tendance haussière du Bitcoin n'en serait qu'à ses débuts, d'après des analystes qui voient la reine des crypto-monnaies atteindre jusqu'à 318 000 dollars d'ici la fin 2021. L'autorité fédérale américaine de l'aviation a annoncé mercredi la levée de l'interdiction de vol du 737 MAX de Boeing, un avion cloué au sol dans le monde entier depuis mars 2019, à la suite de deux accidents en Indonésie et en Éthiopie qui ont fait 346 morts en l'espace de 5 mois. Cette levée met fin à la plus longue immobilisation de l'histoire de l'aviation civile et permettra à Boeing de reprendre les livraisons et les vols commerciaux de cet appareil aux États-Unis d'ici la fin de l'année.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021, reportés à 2022, se sont terminés hier. Le Lesotho a tenu le Bénin en échec 0-0 à Maseru, 1-1 entre la Côte d'Ivoire et Madagascar, 0-0 entre le Rwanda et le Cap-Vert, défaite surprise du Ghana face au Soudan 1-0, 3-0 pour l'Éthiopie devant le Niger. La République démocratique du Congo s'est imposée en Angola 1-0. Le Maroc a fait pareil en Centrafrique 2-0. 0-0 entre la Sierra Leone et le Nigeria. L'Égypte s'est imposée 1-3 au Togo. 2-1 pour le Mali face à la Namibie. 1-1 entre la Tunisie et la Tanzanie. En plus du Cameroun, pays hôte de la compétition, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie et le Mali sont qualifiés. Les 5e et 6e journées sont prévues pour mars 2021. Basketball, barrage qualificatif pour les playoffs maintenus et élargis, absence d'All-Star Game, champion couronné le 22 juillet au plus tard. La NBA a dévoilé la façon dont s'articulera sa prochaine saison qui doit débuter le 22 décembre. La grande nouveauté concerne le play-in tournament, cette phase de barrage qualificatif pour les playoffs expérimentée dans la bulle de Disney World cet été avec 3 clubs, en concernera cette fois-ci 4. Ceux ayant fini entre la 7e et la 10e place de chaque conférence, Est et Ouest, à l'issue de la saison régulière. Le vainqueur de ce mini-tournoi validera son ticket pour les playoffs avec le statut de tête de série numéro 8. Avant d'en arriver à ce stade, chacune des 30 équipes, 15 par conférence, aura 72 matchs de saison régulière à disputer. Cette saison régulière se terminera le 16 mai et les playoffs débuteront le 22 mai. Toujours ici aux États-Unis, la draft de la NBA va délivrer son verdict ce soir. Coronavirus oblige, c'est par visioconférence que se déroulera la cérémonie. Le patron de la Ligue, Adam Silver, prononcera le nom de l'heureux joueur drafté le premier, suivi des 29 autres du premier tour et des 30 du tour suivant. Après tirage au sort, Minnesota détient le premier choix. 14 clubs sont prioritaires du fait qu'ils n'ont pas disputé les derniers playoffs. Reste désormais à savoir sur qui les Timberwolves vont jeter leur dévolu. Trois principaux candidats se dégagent selon les projections des spécialistes, LaMelo Ball, James Wiseman et Anthony Edwards, mais personne ne s'accorde sur l'ordre dans lequel ils seront draftés.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Tshalamwana, diva de la musique congolaise, a été libérée mardi après plus de 24 heures de détention au service des renseignements suite à la sortie d'une chanson intitulée Ingratitude, en pleine tension politique entre le camp du président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila. Eddy Issango a joint à Kinshasa la chanteuse Tshalamwana.
Elle m'a reçu depuis lundi matin à l'âme provinciale et de voilà j'arrive là-bas. On m'a bien reçu par l'auditoire de l'AP de l'année et M. Mbombo. On m'a interrogé, bon, ben, je répondais ce que je pouvais répondre. Et j'ai dit ceci, bon, moi j'ai fait la chanson, je suis la responsable. Mais par contre, tout ce qui est image, ce n'est pas moi. Ce sont des gens qui cherchent des bases. Ce sont des gens qui manipulent les internets là pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais moi, je n'ai pas du tout mis des images du président qui s'occupe. J'ai beaucoup de respect pour lui que notre chef de l'État, le président de la République, je ne peux pas l'insulter. Ce n'est pas la première fois qu'on chante de trahison. Dans notre pays, j'ai chanté trahison. Depuis 2003, j'ai chanté le Kabilanda, j'ai chanté Nyamaïkila, je chante aujourd'hui trahison. Si je ne m'adresse même pas à lui. Mais je ne sais pas tout ce qui s'est passé avec ces gens-là de réseaux sociaux. Ils ont mis des images pas possibles parce que pour ça qu'on la chante, j'ai perdu ma chanson comme ça.
Et qu'est-ce qu'on a reproché à votre chanson en soi, sans les images?
C'est le message, parce que je chante la trahison. Les gens disent que moi, je chante le président. Ce n'est pas lui, je ne m'adresse pas à lui. Je sais que le moment est compliqué en ce moment avec, bon, avec les politiciens. Ça parle aussi beaucoup chez nous ici.
Mais curieusement, votre chanson sort au moment où il y a une forte tension au pays. N'avait-elle rien à faire avec cette tension au pays?
Mais la chanson, est-ce qu'il y a des périodes pour sortir une chanson? Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas sortir la chanson. Ce n'est même pas moi. La chanson ne s'est même pas terminée parce que vous n'avez même pas encore fait le mixage. Et bien voilà, je ne sais pas qui a balancé cette chanson sur l'internet. Et les gens ont récupéré la chanson pour mettre leurs images. Je n'ai pas de compte à rendre à M. Tshisekedi. Je n'ai pas de problème à dire que c'est notre chef.
Justement.
J'ai été insulté à mort. Je n'ai pas insulté de partout. Pourquoi m'insulter? Les gens ne m'essayent même pas de côté. Tous les gens de ces membres, les gens de l'IDF, ce sont des gens qui ne comprennent même pas. Il y a des gens qui sont mal connus là-dedans. Et je ne les prends pas pour insulter les gens. On a insulté comme un poisson pourri.
La commission de censure a interdit la chanson. Pourquoi n'est-elle pas passée devant elle, comme c'est demandé par la loi?
La chanson n'était pas terminée, papa. La chanson n'était pas finie. Comment je vais passer à la censure? La censure chez nous, dès que vous terminez votre produit, avec votre vidéo, vous passez à la censure au ministère de la Justice et vous donnez l'autorisation. Là, vous pouvez diffuser la chanson. La chanson n'était même pas finie.
Madame Tshala, on sait que vous avez toujours eu de bonnes relations avec les pouvoirs en place. Depuis Mobutu, depuis le président Laurent Désiré Kabila, depuis Joseph Kabila. Mais maintenant, quelles sont vos relations avec Félix Tshisekedi?
Les relations avec Félix Tshisekedi?
Oui.
C'est mon président, le président de tout le Congolais. C'est notre président, même si je suis kabiliste. Je suis kabiliste, mais je sais que c'est notre président actuel, c'est lui. Je n'ai pas du tout changé.
Est-ce que vous considérez le fait d'interdire la chanson comme une entrave à la liberté d'expression?
En tout cas, on dit en Afrique, il y a la démocratie. Moi, je ne sais pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est pas la démocratie. Je pense qu'on n'est pas libre. Parce que si on est libre de faire ce qu'on veut, je ne sais pas. Moi, je fais ma chanson qui n'a rien à voir avec les insultes ou avec la personne du président. Mais les gens ont fait et que, bon, ils ont tiré son attention vers la chanson et sur les images.
Vous n'allez pas faire un recours à la commission de censure?
Le même matin, moi, je suis parti. Mais moi, je ne vais pas laisser perdre ma chanson comme ça. C'est ma chanson à moi. Ma chanson ne peut pas mourir comme ça.
Chalamwana, diva de la musique congolaise, après avoir été relaxée à Kinshasa. Des milliers d'Américains ont manifesté pendant des mois contre la brutalité policière et réclamé des réformes, notamment à travers l'organisation Black Lives Matter. Selon un récent sondage, le soutien à ce mouvement s'est maintenant atténué. Voici un reportage d'Elisabeth Lee. Le récit est de Michel Joseph.
Cela fait des mois depuis que les manifestations de masse à travers les États-Unis ont éclaté après la mort de George Floyd, un Africain-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis. Dans un pays où les services de police sont décentralisés, quelques changements ont eu lieu au niveau local, affirme Scott Roberts de l'organisation Color of Change.
Nous avons vu les activistes élire un plus grand nombre de procureurs pro-réforme à travers le pays.
Mais le soutien au mouvement Black Lives Matter a baissé d'intensité depuis le mois de juin. Un récent sondage du Pew Research Center a noté que 55% des adultes américains expriment un certain soutien au mouvement, contre 67% en juin au plus fort des manifestations. Mais cet appui demeure intact chez les Asiatiques et les Africains-Américains. En effet, 87% des Africains-Américains affirment soutenir le mouvement. De nouveau, Scott Roberts de l'organisation Color of Change.
La priorité pour moi et pour Color of Change est la réduction de l'ampleur et de la portée des opérations de police.
Roberts estime qu'il est demandé aux policiers d'accomplir des tâches qui ne relèvent pas de leur domaine. Comment répondre aux appels relatifs aux troubles mentaux? Mais les personnes mentalement instables peuvent rapidement devenir violentes, dit Betsy Smith de l'Association nationale de la police. Si nous envoyons des infirmiers chargés des soins mentaux en premier, ils pourraient être blessés. Betty Smith explique que former les infirmiers à faire face aux violentes situations nécessitera des fonds. J'ai connu des coupes budgétaires, dit-elle, juste au moment où la situation se dégradait dans la communauté. Tout ce qui est supprimé en premier, ce sont les programmes de police communautaire. Et vous savez ce qui est coupé en seconde place? Les formations afférentes. Un sondage par un cercle de réflexion sur la police a établi que la moitié des services de police s'attendent à une réduction de leur budget. Selon Chuck Wexler du Police Executive Research Forum, les polices de grandes villes comme New York perdraient $1 milliard.
Nous parlons d'envoyer des professionnels formés, des gens ayant l'habitude de ce genre de situation.
En dépit des appels d'activistes à couper les fonds à la police, un sondage Gallup, mené en juin et juillet, a révélé que 81% des Africains-Américains veulent un niveau similaire ou même une augmentation de la présence policière dans leur communauté. Éliminer la violence dans les communautés commence par la résolution des problèmes sociaux en fournissant les ressources aux communautés nécessiteuses, souligne Scott Roberts de l'organisation Color of Change.
Avant les élections américaines 2020, les sondages avaient prévu une victoire écrasante pour Joe Biden à la présidentielle et un raz-de-marée démocrate au Sénat. Steve Reddish de la VOA examine comment et pourquoi de nombreux instituts de sondage se sont trompés, comme en 2016. Le récit est de Lionel Gaïma.
Frank Luntz est un célèbre sondeur républicain. Avant le jour du scrutin, il a déclaré à Fox News qu'une erreur de sondage comme en 2016 mettrait en danger son entreprise.
Si Donald Trump a raison et que le sondeur se trompe, alors des gens comme moi vont devoir trouver un nouveau métier.
Quoique substantielle, la victoire de Joe Biden n'a pas été si écrasante. Les maigres gains enregistrés au Sénat par les démocrates et les sièges perdus à la Chambre viennent contredire tous les sondages.
Joseph Campbell est professeur de communication à American University et auteur d'un livre sur les célèbres erreurs de sondage politique.
Les sondages nous ont indiqué qu'il y aurait un raz-de-marée bleu, que Joe Biden gagnerait facilement, confortablement la Maison-Blanche et apporterait avec lui une majorité au Sénat et conforterait la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Et rien de tout cela ne s'est produit.
Bill Schneider est analyste politique et professeur à l'université George Mason.
Ce que les sondages ont fait, c'est qu'ils ont mobilisé de nombreux électeurs de Trump qui étaient très enthousiastes, mais ne sont pas nécessairement des électeurs habituels. Ce sont des blancs de la classe ouvrière qui ne votent pas en grand nombre. Cela les a mis en colère et les a poussés à sortir voter pour sauver le président et pour sauver le parti républicain.
Chaque sondage a une marge d'erreur. Il est essentiel de savoir qui va voter pour réduire cette marge. Joseph Campbell, de American University.
En tant que sondeur, vous voulez éliminer de votre échantillon les électeurs qui disent « oui, je vais voter, mais en réalité ne voteront pas ». Et il y a différentes façons dont les sondeurs font cela et il existe différents dispositifs de filtrage, comme on les appelle, pour éliminer ces non probables électeurs.
Il y a une raison pour laquelle les instituts de sondage disent que leurs enquêtes ne sont qu'une photo instantanée dans le temps. Bill Schneider de l'université George Mason.
Ils sont très utiles pour comprendre ce qui se passe sur le plan politique. Ils sont très pauvres pour prédire ce qui va se passer parce que les gens changent, les gens réagissent, ils répondent aux sondages.
Malgré toutes les marges d'erreur, les sondages sont là pour rester. Ils sont devenus tellement plus imbriqués dans la vie américaine, dans les milieux d'affaires, la vie culturelle et politique, que les sondages ont déjà commencé pour le scrutin de 2024.
Les patrons de Twitter et Facebook qui font face à des accusations de censure ont comparu mardi devant une commission des sénateurs américains pour défendre les mesures prises lors des récentes élections américaines. Un reportage de Tina Trin, le récit est de John Linden.
Les PDG de Facebook et Twitter ont fait des apparitions virtuelles au Capitole mardi, témoignant devant un comité du Sénat américain pour la deuxième fois en trois semaines. Lindsey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud.
Lorsque vous avez des entreprises qui ont le pouvoir des gouvernements, ont beaucoup plus de pouvoir que les médias traditionnels, il doit y avoir une contrepartie. Le discours de haine et d'autres problèmes ont longtemps été évoqués.
La plupart des critiques adressées à Mark Zuckerberg de Facebook et à Jack Dorsey de Twitter ne sont pas nouvelles, mais elles sont intervenues à la suite des récentes élections américaines. Des médias sociaux qui contrôlent la désinformation, le discours de haine et d'autres problèmes ont longtemps été évoqués. Remis en question par les législateurs des deux partis, les républicains accusent notamment ces sites de censure. John Cornyn, sénateur républicain du Texas.
Alors que nous ne laisserions jamais le gouvernement réglementer ce que la presse écrit ou n'écrit pas. Nous permettons essentiellement à des entreprises privées qui sont maintenant de facto des forums publics de réglementer ce discours.
Pour les démocrates, les entreprises et les médias sociaux doivent faire plus pour éviter d'être utilisées pour répandre des mensonges. Le sénateur Richard Blumenthal est un sénateur démocrate représentant le Connecticut.
Vous avez construit des outils terrifiants de persuasion et de manipulation avec un pouvoir dépassant de loin les grands bandits de l'époque de la ruée vers l'or.
Les entreprises ont reconnu que des réformes étaient nécessaires. Mark Zuckerberg de Facebook.
Je pense que nous sommes en retard concernant la mise à jour des règles d'Internet, concernant le contenu, les élections, la confidentialité et la portabilité des données.
Jack Dorsey de Twitter a souligné l'impact des algorithmes sur la détermination de ce que voient les utilisateurs.
Nous pensons que nous devrions avoir plus de choix dans la manière dont ces algorithmes sont appliqués à notre contenu si nous les appliquons à tout. Nous pensons donc les activer ou les désactiver et avoir une idée claire des résultats qu'ils projettent.
Les experts disent que l'apparence des entreprises à être ouvertes aux changements est nouvelle. Paul Barrett est le directeur adjoint du Center for Business and Human Rights de l'Université de New York.
Les entreprises signalent clairement qu'elles essayent de trouver un moyen de faire des compromis avec les membres du Congrès en proposant un nouveau cadre réglementaire.
Selon les experts, toute nouvelle loi invitera très probablement les entreprises technologiques à être plus transparentes dans la manière dont elles prennent des décisions sur le contenu à étiqueter ou à bloquer. Et tant que les médias sociaux auront le pouvoir d'influencer les opinions, il y aura également un examen minutieux.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et